série, bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un Cereal Lover
ou un Cereal Eaters.
Bonjour les Sérivores, nous allons aujourd'hui, en ce début d'année, vous souhaiter à nouveau une bonne année 2023, au nom de Sérivore et de toute l'équipe, avec surtout la santé. Et pour bien la commencer, nous allons faire un petit bilan des trois séries que nous avons appréciées et des trois autres qui nous ont plutôt déçus, comme on fait chaque saison. Nous continuerons ensuite avec les séries que nous attendons pour 2023, bien sûr sur cette liste non exhaustive. Et je vous fais confiance pour vous aussi trouver de bonnes séries, des petites pépites de cet écran. Et comme nous avons fait pour Cinéphage, eh bien, je serai accompagné de Yannick, service civique à Montlouis, et puis David, notre technicien, mais aussi mon collègue de Sérivore depuis quelques années. Et puis, on est assez rodé maintenant à l'exercice entre nous. Le petit nouveau aussi, Yannick, et puis bah, on a vu que c'était quelqu'un qui était passionné par le ciné, les séries, la musique. Donc, c'est un avis toujours très important d'avoir. En plus, on est trois générations différentes, donc c'est encore plus cool. Eh bien, on va commencer par le top 3 de nos séries ou saisons de séries de 2022. David, tu vas commencer ?
Alors, moi, c'est que des séries qui ont commencé en 2022. Donc, c'est déjà Les Anneaux du Pouvoir. Donc, c'est la série sur Le Seigneur des Anneaux. C'est un préquel, en fait, en série. Il y a eu beaucoup de critiques qui disaient que c'était longué et tout ça. Et moi, je trouve qu'au contraire, ça place bien les choses. Et pour une fois qu'ils prennent le temps de mettre en place une vraie bonne histoire, bah, ça, c'est cool. Il y a eu Pistol aussi, bien sûr. Mini-série de 6 épisodes sur les Sex Pistols, qui a été réalisée par Danny Boyle. Très, très bonne série. Après, il y a aussi quelques petits trucs qui étaient moins bien dans la série, mais... En général, quand même, c'était pas mal du tout. En plus, passer sur Disney, hein, c'est étrange, mais c'était bien quand même. Et il y a aussi Périphérique, les mondes de Flynn, avec Chloé Grace Moretz.
Ah, il est dans le mien aussi.
Qui est vraiment énorme. Et voilà. Et après, je rajouterai juste un petit bémol. C'est juste pour dire que la dernière saison des Peaky Blinders était toujours aussi géniale. Voilà, c'est tout.
À ton tour, Yannick.
En premier, ce serait probablement la deuxième saison de Euphoria, avec Zendaya en tête d'affiche, et parce que c'est probablement la saison 1 avec l'intensité montée au max, même si il y a quelques failles scénaristiques. C'est tellement intense tout du long que honnêtement, on peut passer outre, et puis surtout, c'est vraiment le rôle qui m'a vraiment fait prendre Zendaya au sérieux en tant qu'actrice, parce que j'ai trouvé, généralement dans ses films ou ses productions précédentes sont jouées un peu limitées, là-dedans elle est juste extraordinaire. Et j'ai pas compris les critiques qui disaient que ça glorifiait un peu l'usage de drogue. Moi j'ai trouvé que c'était tout l'inverse, on parle avec énormément de sincérité. Et quand tu vois les déboires des personnages qui sont impliqués dans cette série, tu as tout sauf envie d'avoir leur vie, quoi. Le top 2, c'est un truc que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Why Women Kill, et c'est absolument excellent. C'est vraiment une série qui te tient en haleine jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas le scénario, en fait, tu suis 3 couples à 3 époques différentes, et il se passe 3 meurtres à chaque époque, et le but, ça va être de comprendre pourquoi, et à la fin, c'est de se demander si on est d'accord avec les meurtres ou pas, ou si du moins on les comprend.
Et je qu'est-ce qu'est-ce qu'on ferait à leur place en
gros ? Ouais, mais même sans être à leur place, même du point de vue de spectateur, est-ce qu'on pourrait, en ayant tous ces éléments-là, comprendre les meurtres et pourquoi ils ont été considérés comme nécessaires, entre guillemets.
D'accord. Un peu comme si tu étais un jury
et
tu condamnerais ou pas en fonction de...
Avec beaucoup plus d'éléments qu'un jury, mais ouais.
D'accord.
Et mon troisième, enfin c'était Périphérique les mondes de Flynn, mais comme David là, on a déjà parlé, je vais prendre autre chose. C'est une petite pépite animée qui s'appelle Osama Ranking, qui suit l'évolution d'un petit garçon qui s'appelle Boji, qui est le prince de l'un des royaumes les plus puissants de son pays. Son père est l'homme le plus puissant du pays et lui, il est probablement le plus faible. Il est sourd et muet aussi, ça le rend très attachant, je trouve, dans sa façon de voir le monde. Et en fait, ça va être le chemin, l'évolution de Boji pour passer de, du plus faible au plus fort. C'est le scénario d'un shonen classique, mais dans sa réalisation, dans les dessins, dans les personnages, dans les intrigues, c'est vraiment très bien réalisé, c'est beaucoup plus subtil. Certains trucs sont beaucoup plus subtils. Il y a vraiment des secrets qui sont bien gardés jusqu'à la fin de la série. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que c'est des fois un peu larmoyant, mais pour être larmoyant, et que des fois, il y a des résolutions que je trouve un peu trop faciles. Mais sinon, c'est une série avec laquelle j'ai passé un excellent moment et j'attends vraiment la suite avec impatience. Donc ouais, je dirais que c'est mon top 3 de cette année. Ouais.
Eh bien, en ce qui me concerne, bah, j'ai mis Les Anneaux du Pouvoir, hein, je suis d'accord avec David. Contrairement à La Tempête qu'il y a eu, moi ça m'a fait plaisir de retrouver le monde de Tolkien, une autre époque, certains personnages et d'autres nouveaux. Un petit peu justement, de moi c'est toujours les décors et puis tout ce qui est effets spéciaux sont bien utilisés, on est vraiment dans un autre monde. Et moi ça me fait plaisir justement de voyager. Après le scénario, comme tu l'as dit, bah, on découvre quelques miettes de... Bon, je sens spoiler, mais voilà, ça nous amène un petit peu plus sur l'histoire écrite par Tolkien sur Le Seigneur des Anneaux, du Hobbit.
Et puis de certains personnages.
Et de certains personnages, on comprend un petit peu l'historique, comment ils sont devenus et qui est devenu qui. Donc, bon, pour ça, ouais, j'ai bien aimé retourner. Pistols aussi, puisque bah, faire les Sex Pistols, bon, et moi qui adore le punk rock, c'était... Et puis connaissant bien l'histoire, alors un petit bémol en effet, parce que bon, c'est un petit peu romancé, bien que ça fait plaisir, parce que Danny Boyle, c'est quelqu'un qui est quand même assez sans concession, hein, on l'a pu voir dans toute sa filmo, c'est quelqu'un qui est assez honnête. Et puis le fait que ça soit pas toujours Johnny Rotten ou Sid Vicious qui soient le héros principal.
Mis en avant, ouais.
Voilà, là c'est le fait que ce soit Glenn Matlock et ça fait plaisir de voir.
Et on voit bien aussi le rôle de Malcolm
McLaren et puis Vivian Westwood qui est décédé récemment.
C'est ça, ouais.
Donc c'est ça, cet univers du London Punk des années 70. Moi j'ai trouvé que c'était bien assez retracé en fait avec tous les problèmes politiques qu'il y avait à l'époque, donc c'est un voyage assez réussi pour moi. Et puis j'ai mis Viking Valhalla, j'attendais cette série, j'ai adoré la première, j'adore les séries historiques comme vous le savez, et là je me dis, ah attention, qu'est-ce que ça. Et en fait, bah, on repart dans un autre cycle avec toujours dans l'univers viking, et toujours le côté un peu historique. J'ai pas été déçu par la première saison, et contrairement à certaines séries dont on va parler dans nos flops, bah, voilà. Et puis comme on a mis chacun un petit peu des petit joker, bah, j'ai mis 3615 Monique, un film, une petite série française sympa sur les débuts du Minitel Rose et par une bande de jeunes issus de trois milieux différents et qui montent une espèce de vaste arnaque. C'est simple, mais ça nous met bien dans l'univers des années 80, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, les radios libres, et on voit un petit peu bah, à l'époque que tout était un peu possible. On l'a vu en musique, on l'a vu dans les radios, et puis là, on voit avec des petits bidouilleurs, ça un petit peu annonce l'arrivée d'Internet et ce qui va se passer après. Sans être trop avec trop de gros moyens, mais bon, il y a de l'humour, ça fait un peu, c'est un peu la vie de tous les jours, donc j'ai bien aimé cette petite série. Et puis bah Andor, la série Star Wars, j'ai trouvé bien plus sombre que les autres et j'ai bien aimé justement ce côté un peu plus sombre, comme toi pour Disney pour Pistol, bah voilà. Voilà, ça serait en gros mon top. On va passer aux flops, donc aux séries qui nous ont soit un peu déçus ou carrément qu'on n'a pas aimé. Et c'est Yannick qui va s'y coller.
Comme j'ai dit tout à l'heure, je dirais pas que j'ai vraiment des flops, mais juste des séries. Ah si, je suis en train d'y penser maintenant. Flop, j'ai continué Elite, une série espagnole sur...
Sur les écoles élitistes.
Ouais, mais surtout, mais pas que. Et puis il y a énormément de mystères, il y a énormément d'intrigues, de qui l'a fait, ceci, cela. C'est vraiment le truc qui m'a gardé dans la première saison. Et j'ai trouvé qu'après la saison 2, ça s'essouffle un peu et on tombe un peu plus dans le côté un peu telenovela, qui sort avec qui fait ceci, qui fait cela. Et c'est triste à dire, mais comme le sexe marche tellement bien aujourd'hui, j'ai eu la sensation que une fois qu'ils avaient trouvé leur public, ils sont juste contentés de mettre du sexe à outrance
pour
garder les auditeurs. Et j'ai trouvé ça dommage parce que moi, j'étais vraiment dans le côté mystère. J'aimais beaucoup, honnêtement. Et les saisons qui ont suivi la saison 2 m'ont... m'ont pas plus embarqué que ça.
Surtout que les Espagnols font de très bonnes séries.
Ouais, hein. Ouais.
Il n'y a pas que la Casa del Papel. Quand on regarde un peu en film et série, le cinéma espagnol est vraiment prolifique.
Puis tu retrouves des acteurs de la Casa del Papel dans Elite et vice-versa, donc les gens ne seront pas perdus. Deuxième, je dirais peut-être The Good Place. Pas parce que c'est une mauvaise série, juste parce que je l'ai regardé. J'ai passé un bon moment devant le premier épisode. Je ne me suis pas nécessairement dit que j'allais continuer outre mesure. C'est intéressant, le sujet est intéressant, le fait de comment on s'imagine le paradis, quelqu'un qui arrive au paradis mais qui n'est pas censé l'être, au final tu vois que tout n'est pas aussi rose que l'idée qu'on s'en fait avant d'y arriver. Le casting est pas mal, il y a quelques répliques drôles et intelligentes par-ci par-là, mais j'ai pas été accroché au point de me dire que j'allais me farcir toute une saison. Mais à regarder quand même. Et c'est un peu pareil pour Servant. Mais Servant, c'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce que c'est mauvais, c'est juste que j'avais déjà tellement d'autres séries en cours. Souvent, en fait, je regarde plusieurs séries en même temps, et c'est vraiment celle qui capte à fond mon attention que je suis. Et Servant, même si c'est une série très intéressante, je sais pas si vous voyez le pitch, le scénario, je l'ai un peu remise à plus tard. C'est pas parce que c'est mauvais, mais c'est vraiment parce que, voilà, en termes d'attention, j'ai préféré la diriger vers autre chose. Mais... Voilà
ton top 3 des flops, 3, ouais. Des déceptions.
Flop, et toi, entre guillemets, ouais.
Et toi, David ?
Alors moi, j'ai été très déçu parce que j'en attendais quand même... j'espérais avoir une bonne surprise, mais non. D'Obi-Wan Kenobi, déjà. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Hayden Christensen qui était revenu, et surtout Ewan McGregor, que pourtant, dans ce rôle d'Obi-Wan Kenobi, il est top. Et là, en fait, à part de l'action à outrance, des combats entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi à outrance, le scénario est assez pauvre, et l'histoire, un peu ni queue ni tête. Voilà. Voilà. Willow, pareil, j'ai même pas fini la saison, je m'ennuie. Totalement. Le scénario, je trouve ça très très lent, pauvre. Voilà. Une autre que pour une fois, c'est une série de super-héros. Je me disais, ça peut être intéressant. C'est sur. Donc, c'est un dieu de la lune égyptien qui donne son avatar et tout ça. Ça s'appelle Moon Knight. Et en fait, pareil, le scénario, il a pas de queue ni tête. Il y a plein de choses qui manquent. C'est fait à la va-vite. Et voilà.
Oui, ça va que sur la. Ça surfe plutôt sur la vague des super-héros,
mais
un petit peu à toutes les sauces, et puis comme les films, malheureusement.
Mais l'histoire du début,
le pouvait changer. Le pitch pouvait être sympa, mais...
Ouais, carrément, et non.
Pour moi, je suis d'accord avec toi, Willow. Willow, ça c'est... Moi, j'adore l'heroic fantasy, et puis je m'attendais... Alors déjà, à voir au moins apparaître Val Kilmer.
Oui.
Bon, on a Christian Slater, mais bon, c'est... voilà. Et puis, la seule chose positive, il y a Derek Warwick et quelques acteurs qui étaient dans le premier. Mais on a du mal à rentrer dans le moule, un petit peu édulcoré façon Disney, avec des personnages qu'on met là et qui n'ont pas forcément à être là. Et puis, c'est un peu poussif. Contrairement à toi, je suis arrivé au 7e épisode. Hein, donc,
courage.
Et j'irai jusqu'au bout pour vraiment voir entièrement juger. Mais bon... J'avoue, je suis un peu beaucoup déçu, comme dirait l'autre. Alors, L'île aux 30 cercueils, alors là, c'était une série de mon enfance qui m'avait fait flipper à l'époque. Ça se passait, c'est d'après Leblanc, celui qui a écrit Arsène Lupin. Et là, ça a été remis à la sauce moderne. Alors, des fois, ça peut être réussi. Autant l'autre se passait juste après la Première Guerre mondiale. Là, c'est de nos jours, d'histoire de mystère, de crime. Un peu tarabiscoté, c'est pas très, très clair. Ils ont essayé de surfer justement sur le succès de la première série. Et puis, pour moi, c'est plat. Alors, une série qui me déçoit un petit peu avec toute la pub qui a été faite autour, c'est Yellow Jackets, avec un super casting. On sait pas où ils veulent aller. J'ai vu la première saison, là il y en a une deuxième, je l'ai pas encore regardée.
C'est l'avion qui se crache là.
Voilà, c'est l'avion qui se crache avec une équipe de football féminin. Des actrices, entre autres Mélanie Klinsky qu'on retrouve qui jouait dans Mon oncle Charlie, Winona Ryder, enfin des actrices bankable comme on dit. Mais non, bah, j'ai du mal à m'accrocher. Alors peut-être que la deuxième saison sera plus puissante. Et puis, j'ai trouvé, oui, qu'il y avait pas mal de petites séries sympathiques, mais qui ne valaient pas tripette. Et c'est vrai qu'on en parlait hors antenne avec Yannick. Et bien, quand on rentre pas dans la première saison, les premiers épisodes, on a tellement de possibilités qu'après, c'est dur de s'accrocher.
Aucun d'entre nous l'a mentionné, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière saison de Stranger Things ?
Stranger Things, moi, qui ai connu beaucoup de films des années 80, j'ai l'impression que c'est un melting pot de tous les films qu'on a eus à cette époque-là, aussi bien les films fantastiques, horreurs. On essaye de faire du comme à l'époque, mais c'est bien. Série qui veut un peu accrocher la famille, les ados, partir sur l'horreur. Voilà, ça va pas jusqu'au bout des choses. Et moi, je préfère voir un ça de Stephen King ou quelque chose comme ça, où ça va être beaucoup plus... pour moi, c'est...
Moi, j'ai jamais réussi à vraiment rentrer dedans, en fait. Je me suis forcé à regarder les trois premières saisons. Et c'est pas mal, mais j'arrive pas à accrocher vraiment.
Et toi, Yannick ?
Moi, j'ai un peu trouvé que c'était... J'ai un peu trouvé que la recette s'essoufflait. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on suit ces personnages et que, apparemment, ce ne sera pas la dernière saison, mais la saison d'après sera la dernière saison. Il n'y a plus le même attachement qu'au départ parce qu'ils grandissent et quand tu vois des thèmes revenir et qu'ils sont censés avoir grandi,
je suis d'accord avec toi.
Il faut se décider. C'est soit ils grandissent, du coup, c'est plus comme ça, mais à ce moment-là, ils ne peuvent pas avoir les réactions qu'ils ont aujourd'hui. C'est un scénario intéressant, gâché par des décisions assez incohérentes de certains personnages. Et tu sens que ça sort vraiment sur maintenant qu'on a une fanbase, on peut se permettre un peu plus de choses. Mais le fait que la prochaine saison soit la dernière, je pense que c'est une bonne chose parce que je pense qu'ils sont arrivés au bout de la corde, quoi. Donc ce sera pas plus mal, je pense.
Eh bien, je vous propose de couper avec une première BO, et ce sera la BO de Buffy contre les vampires, donc une vieille série. Eh bien, nous voici arrivés aux 20 séries à découvrir en 2023. Alors, comme je le dis toujours, c'est non exhaustif. Hein. J'ai cherché à droite, à gauche, un petit peu pour voir ce qu'on nous prépare. Surtout, beaucoup de nouveautés. J'ai pas été trop vers les saisons 2, 3, 4, 5. Non. J'ai essayé de fouiller parce que je sais très bien que si on est fan d'une série et la saison, on est tous pareils, on va aller chercher nous-mêmes, on va essayer de suivre. Par contre, des fois, j'aime bien qu'on titille un petit peu avec les idées. Alors, ce qu'on va faire, un petit peu comme on avait fait avec les films dans Cinéphage, je vous propose trois séries et après, on en discute, celles qui nous intéressent un peu plus. Alors, The Witcher, la troisième saison, j'ai fait une exception parce que comme il y a le préquel qui vient de sortir, dont David m'a parlé aussi et qui visiblement le... Il veut voir ce que ça va donner. Alors, la troisième saison de Witcher, qui raconte les aventures du sorcier Geralt von Riva, joué par Henry Cavill. Le sorcereur Geralt est de retour pour traquer des monstres mutants et tenter de trouver sa place dans un monde où les humains se révèlent souvent plus dangereux que les bêtes. Et outre Cavill, les actrices Freya Nalan, qui joue Cyril, et Annie Charlotta, Yennefer, seront à nouveau présentes. De plus, quelques nouveaux personnages vont apparaître, notamment Galadriel, Myst, Milva et le prince Radovid. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de lire, puisque faut le dire qu'au départ, c'était un jeu vidéo, puis il y a eu les romans.
Non, c'était l'inverse.
Ou l'inverse, oui.
Roman et après.
Roman et jeux vidéo. Et puis, bah, voilà, au départ, même, c'était beaucoup les Polonais qui lisaient ça. Et donc, ça nous est arrivé. Donc, ce qui est bien, c'est de voir aussi que, au niveau mondial, bah, il n'y a pas que les Américains et les Français qui produisent beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de séries.
Et c'est la dernière saison dans
les Cavill. Et c'est la dernière saison, puisqu'il a décidé d'abandonner et Superman, son rôle fétiche, et la série The Witcher. Mais bon. Ensuite, bien, Viking Valhalla, la saison 2, l'histoire de Viking de Leif Erikson, Frédéric Harris Dotter et Harald Sigurdsson se poursuit en 2023, donc. Et dans une dernière tentative, les rôles veulent s'imposer face à Olaf, pas le bonhomme de neige, hein, de la princesse des neiges, et ses guerriers. Dans une Europe en pleine mutation, ses guerriers vont être prêts à tout pour survivre. Et puis, la dernière suite de série, j'ai mis Lupin, la série Lupin, avec Omar Sy qui revient pour un troisième volet. Et donc, après l'enlèvement de son fils par des personnes dangereuses dans la deuxième saison, le charismatique Diop, joué donc par Omar Sy, va disparaître à son tour. Alors, messieurs, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ?
The Witcher, clairement. Moi aussi. Parce que moi, je suis ultra fan du jeu. Genre ultra, ultra fan. Et le truc, c'est que c'est marrant, mais avec la série, j'ai regardé la saison 1. J'étais à fond dedans. J'ai lâché pendant je sais pas combien de temps. J'ai dû re-regarder et je suis de nouveau à fond dedans. Et donc, du coup, savoir que j'ai encore la saison 2 et que d'ici à ce que je finisse, il y aura probablement une saison 3, ça m'emplit de joie. C'est un peu comme ce qui s'est passé pour Peaky Blinders, où j'ai tout découvert quand il y avait déjà les 4 saisons de sortie. Donc, assurément, ouais, j'ai plutôt bien aimé le jeu de Henry Cavill en tant que Geralt. Et j'ai été assez surpris parce que c'est pas un rôle dans lequel je l'imaginais être à l'aise. Et maintenant, j'arrive. Ça me fait bizarre de savoir que ça a pu être lui, puisque je regarde les épisodes et j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que lui dedans. Mais
pareil.
J'ai
hâte.
Pareil pour toi, David.
Pareil pour moi. Parce que Lupin, exemple, la première saison était sympa à regarder. La deuxième commençait déjà à être un peu décevante pour moi. Donc, la troisième. Et puis, ma Viking Valhalla, j'aimais beaucoup Viking. Mais j'ai pas commencé celle-là, donc je peux pas te dire.
D'accord. Bah, moi, je suis surtout intéressé par Viking Valhalla, parce que j'ai vu la première saison et que, comme je disais, je suis fan du truc historique. Après, Lupin, bah, je suis un peu d'accord avec toi, c'est un peu redondant. Puis bah, The Witcher, j'arrive pas à accrocher. Je suis fan d'Heroic Fantasy, mais les dernières adaptations, la plupart des trucs d'Heroic Fantasy... Ça fait trop ado pour moi. Donc, j'espère qu'il va y avoir d'autres séries. Il y a des séries d'Heroic Fantasy. Mais voilà, puis le fait de jouer avec des acteurs hyper connus, ça me gêne un peu, moi, par contre, de prendre que des acteurs connus. J'aime bien, de temps en temps, grâce aux séries, découvrir des acteurs un peu nouveaux, même si des fois, des acteurs de cinéma vont amener, ou des acteurs connus vont amener quelque chose. Mais ça peut être quitte ou double. On a vu ce que ça avait donné, par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, avec Obi-Wan Kenobi, ça n'amène pas toujours le succès. Je vous propose donc de continuer avec Heart of Stone, donc un thriller d'action. Dans ce thriller d'action, Gal Gadot est dans la peau d'une femme qui ne vit que pour l'adrénaline. Aux côtés de Gal Gadot, on va retrouver Matthias Schweighofer et la star de Fifty Shades of Grey, Jamie Dornan. On ne sait encore rien tout à fait de l'intrigue, sauf que c'est vraiment un thriller action. Alors, The Mother, avec Jennifer Lopez, qui est de retour devant une caméra et qui va jouer dans un autre thriller, The Mother, une tueuse à gages qui tente de sauver sa fille d'hommes plutôt malveillants. Ensuite, Transatlantique, l'histoire se déroule à Marseille en 40-41. La série s'inspire de l'histoire vraie de Varian Free, Mary Jane Gold et de l'Emergency Rescue Committee. Alors, les personnages vont prendre tous les risques pour aider plus de 2000 réfugiés. Et parmi eux, de nombreux artistes recherchés par les nazis. Leur but est de fuir la France qui était à l'époque occupée pour échapper, entre autres, comme on le disait tout à l'heure, à l'Holocauste, donc aux nazis et la Gestapo qui cherchent. Et face à ce danger, des alliances inattendues, des histoires d'amour enflammées vont apparaître.
Pas vraiment intéressé par un des trois, honnêtement. Là, en entendant le pitch, il n'y en a pas vraiment un qui me fait envie.
Ouais, il n'y a rien qui me... À première vue, après, bien sûr...
Moi, j'ai envie de voir Heart of Stone pour voir un thriller. J'aime bien les thrillers. Gal Gadot, c'est au niveau action, ça donne bien en général. Alors, je risque, comme je l'ai dit auparavant, peut-être d'être déçu, peut-être d'être surpris avec un autre rôle que Wonder Woman ou d'autres rôles qu'elle a joué de films d'action. Quant au dernier, là, Transatlantique, j'ai l'impression d'avoir du vu et revu ce truc sur l'Holocauste. C'est un sujet qui a été traité, retraité. Et pour moi, à un moment, ça devient un peu la vache à lait, comme pas mal de sujets, même si le sujet est sérieux. Et puis, The Mother, bon, Jennifer Lopez. Donc, on semble être assez d'accord sur ces trois-là. On continue avec The Glory, la série thriller sud-coréenne. The Glory raconte l'histoire d'une femme qui cherche à se venger de ses anciens camarades de classe qui l'ont harcelée et maltraitée par le passé. Et lorsque les blessures de l'enfance refont surface, la vengeance va s'annoncer terrible. Ensuite, Burn the House Down, une série japonaise plutôt dark qui s'annonce riche en suspense et en émotions. Et lorsque Anzu Murata va s'immiscer dans la demeure de la riche famille Mitarai comme gouvernante de récupérer la vie qui lui a été volée, elle se lance à corps perdu dans une mission qui lui dévoilera les secrets d'un incendie survenu 13 ans plus tôt. Et puis, la dernière série que je vous propose, c'est Berlin, le spin-off de la série culte La Casa de Papel. Cette fois, c'est l'histoire qui va se focaliser sur Berlin, qui est aussi connue sous le nom d'Andreas de la Fonoliloza, après le casse de la monnaie royale d'Espagne et celui de la Banque d'Espagne que nous réserve Berlin pour cette nouvelle aventure. Messieurs ?
The Glory, personnellement. Ça a l'air, j'aime bien le pitch, ça a l'air intéressant. Et La Casa de Papel, j'ai jamais regardé. Donc la suite ne m'intéresse pas plus que ça. Et puis, pour ce qui est de l'autre, c'est...
Burn the House Down, le japonais.
À voir peut-être. Mais The Glory, en tout cas, m'intéresse.
The Glory, ouais, parce que c'est sud-coréen. Et puis souvent, ça part bien, bien loin. Ça peut être sympa. Et puis après, Berlin, je pense qu'on veut... Je sais pas pourquoi, mais je sens le truc décevant.
C'est vrai que quand on voit la Casa del Papel était super, et plus ça allait à la fin, plus déjà, ça devenait tiré par les cheveux. Des changements.
Il y avait limite une saison en trop. Ouais. Déjà, donc là, franchement, ça fait peur.
Voilà, moi aussi, je serais tenté par Glory. Hein, le cinéma et les séries sud-coréennes en général, ça donne bien. Pourquoi pas? Puis Burn the House Down. Voilà, c'est cette espèce de vengeance en s'infiltrant dans une famille. Pourquoi pas? Alors, on continue alors avec une série super sexe, série consacrée à Rocco Siffredi, centrée sur la vie et le parcours professionnel du comédien Rocco Siffredi. Cette série se penche sur son enfance, sa famille et son rapport à l'amour. Super sexe vous dira ce qui a conduit Rocco à faire sa carrière dans le X. The Free Body Problem, la série va relater l'histoire du tout premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. Du côté des acteurs, on retrouve notamment John Bradley West qui joue Samuel Tarly dans Games of Thrones. Et puis Exploding Kittens, une série comique décalée. Le fil conducteur de cette série est centré sur la rivalité entre le paradis et l'enfer. le conflit se poursuit sur Terre lorsque Dieu et Satan sont missionnés dans le corps de chats particulièrement grassouillés, donc un petit peu une parodie. Donc là, vous avez vu, hein, on fait dans la série un peu parodie et rigolade, et même biopic, mais bon.
Exploding Kittens a l'air marrant, je pense que c'est le genre de truc que je pourrais regarder un vendredi soir. Je rentre, je déconnecte mon cerveau, je me pose. Les deux autres, non, pas tellement, non.
David ?
Ouais,
fan de ce rock aussi, Freddy ?
Non, ça va aller, mais non, il n'y a aucune des trois qui me...
Moi, je serais plutôt The Three Body Problem parce que j'aime bien les films avec les extraterrestres. Donc, voir ce qu'ils vont nous mettre. Alors, si c'est une copie de mettre des extraterrestres, des petits bonhommes verts, voilà. Si...
C'est censé être parodique ou c'est censé être...
Je ne sais pas. On ne sait pas encore sur quel ton ils vont nous mettre ça.
Parce que si ce n'est pas parodique, ça peut faire penser à... J'ai oublié le nom. Je ne sais pas si c'est ça, d'ailleurs, le nom français. Arrival.
Oui, The Arrival. Mmh. Oui, bah, de toute façon, il y a eu plein...
J'ai beaucoup aimé ce film, donc si c'est le même concept...
Après, voilà, c'est ce que je... C'est le thème qui m'intéresse. Mais bon, après, la vie de Rocco Siffredi, mais alors je m'en bats les steaks, comme on dirait le centre. Et puis, Exploding Kittens, pourquoi pas, oui, pour rigoler, mais savoir si c'est bien traité, je suis d'accord avec Yannick. Mmh. On continue avec Queen Charlotte, le spin-off de des chroniques de Bridgerton, qui est centré cette fois-ci sur la jeunesse de la reine Charlotte, qui est promise au roi d'Angleterre contre son gré. Charlotte découvre que la famille royale est bien différente de ce qu'elle pense. Malgré les embûches, la jeune fille trouve peu à peu ses marques au palais. Ensuite, Gladys Krestek, alors aussi connue sous le nom de Cigarette Girl, l'histoire de ce drame indonésien a pour décor l'industrie de la cigarette dans les années 60. Pour exaucer les dernières volontés de son père, un jeune homme se plonge dans le passé de sa famille et met un jour une incroyable histoire d'amour. Et The Most Beautiful Flower, la plus belle fleur en français, est une série feel-good pour ados avec ses formes pulpeuses et ses cheveux bouclés. Mitch se trouve fabuleux et s'assume à 100%. Cependant, les élèves les plus populaires de son lycée ne sont pas encore très convaincus. Donc, un peu girly, un peu ado, hein, parce qu'il en faut pour tout le monde. Si vous étiez un ado ou un romantique, qu'est-ce que vous choisiriez ?
Le deuxième, l'histoire de sur la cigarette.
En Indonésie, ouais.
Plus pour le côté, t'as dit qu'il y avait une sorte de mystère qui était révélé.
Ouais.
J'aime bien les trucs comme ça, donc peut-être les deux
autres. Puis une série indonésienne, ça change.
Ouais. Puis
c'est vrai.
Pourquoi pas, en vrai. Mais les deux autres, non.
Alors, le dernier, pas du tout. Queen Charlotte, moi j'ai du mal avec toutes ces histoires royales.
Bah ça va être bien pour les gens qui suivaient déjà Bridgerton.
Ouais,
les
ouais.
Autres, pas tellement, quoi.
Non, moi je suis plutôt révolutionnaire. Les familles royales, ça m'intéresse pas du tout. Eh bien, je vous propose de continuer avec une bande originale très classique, celle des Mystères de l'Ouest. Continue nos sorties des séries 2023. Alors, par The Queen of Villains. Alors, cette série va retracer le parcours de Dump Matsumoto, une célèbre catcheuse professionnelle qui a popularisé ce sport auprès des femmes dans le Japon des années 80. L'autre série, c'est Makanai dans la cuisine des Malko. Alors, ce programme intimiste se situe à Kyoto, dans le quartier des Geisha. La jeune femme qui incarne le personnage principal, Kiyo, devient Makanai, donc la personne qui prépare les repas, et dans une maison où cohabitent des apprentis Geisha. Donc, c'est un peu la vie à l'intérieur de ces spéciales maisons. Ensuite, Gotham Knight. Au lendemain du meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif rebelle forge une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman, alors qu'ils sont tous accusés d'avoir tué le Caped Crusader. En tant que criminels les plus recherchés de la ville, ce groupe d'inadaptés renégats va devoir se battre pour laver son nom dans un Gotham qui est descendu dans les plus dangereux qu'il n'ait jamais été. Cependant, l'espoir vient des endroits les plus inattendus, car cette équipe de fugitifs totalement invraisemblables deviendra la prochaine génération de sauveurs sous le nom de Gotham Knights.
The Queen of Villains a l'air intéressant. C'est une histoire vraie en plus.
Ouais, ça a l'air d'être un biopic.
Ce serait intéressant à voir quand tu sais que, par exemple, au Japon, les compétitions de sumo sont encore interdites aux femmes.
Ouais, moi, c'est ça, c'est le côté comment une femme dans une société japonaise qui est très machiste, il faut le dire, a réussi à s'imposer dans un sport, comme tu dis, plutôt réservé à...
Non, mais justement, je me demande si le fait qu'elle se soit dirigée vers le catch et que du coup elle ait reconnu un certain succès à l'international, ce soit pour contourner le fait que, par exemple, des sports comme
sumo, voir, elle a pris ça parce que ça, on ne l'a pas interdit. Oui, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de sports. Disons, déjà, c'est une société qui est très par caste, élite. On voit, il y a les yakuza, tac, tac, tac. C'est bien codifié, hein. On ne rentre pas comme ça, on ne passe pas d'une catégorie à l'autre. Il y a tout un tas de rites initiatiques, de tabous, de choses comme ça. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. David ?
Oui, la même que Yannick, hein. Franchement, parce que Gotham, truc, là, ça sent le navet à plein nez, je ne sais pas pourquoi, mais déjà.
Si, moi, peut-être ma canaille aussi, de voir comment ça se passe dans, justement, ces maisons de Geisha, parce que c'est pareil, on tombe par contre dans le truc très traditionnaliste. Mais de voir les dessous de la... On voit que juste la Geisha traditionnelle, mais voir comment ça se passe, l'éducation, et savoir comment c'est traité, pourquoi pas. On continue alors avec Lockwood & Co., basé sur les romans à succès de Jonathan Stroud. Il s'agit d'une agence de détectives dirigée par deux adolescents et une fille non-voyante. Donc, ensuite, Wolfpack, Everett et Blake voient leur vie changer à jamais après qu'un feu de forêt en Californie ait réveillé une créature surnaturelle terrifiante. Blessés, les adolescents sont inexplicablement attirés l'un par l'autre et par deux autres, les faux jumeaux Harlan et Luna, qui ont été adoptés 16 ans plus tôt par un garde forestier après une mystérieuse incendie en forêt. Ensuite, En Place 2, et avec Jean-Pascal Zadi, Benoît Poulvord, Éric Judor, Fadila Camara, Marina Foïs, Farid Pagnotis, Pasco et Pierre-Emmanuel Barret. Donc un animateur idéaliste de la banlieue parisienne arrive au second tour des présidentielles. Mais la France est-elle vraiment prête à élire son premier président noir ? Messieurs ?
Lockwood & Co. est le dernier. En fait, c'est genre... C'est un peu... Tu te souviens quand on parlait de films français et tu disais que le thème de l'opposition sud au nord revenait souvent ? J'ai l'impression que cette opposition, pareil, banlieue, milieu un peu plus aisé, revient trop. Et puis tu vois tout le temps les mêmes têtes, tout le temps les mêmes thèmes, tout le temps les mêmes acteurs. C'est pas un truc que je regarderais personnellement.
Ouais, parce que pour moi, tu vois, cette série, elle pourrait être sympa si on mettait des jeunes acteurs.
Ah oui, il y en a.
Tu vois ce que je veux dire ? Mettre des mecs plus ou moins connus, des jeunes acteurs en devenir... Peut-être, ça amènerait, pareil, avec une réflexion un petit peu plus loin que, comme tu dis, l'opposition, des jeunes qui, eux, ont vécu le truc. Parce que tous ces gens-là qu'on cite, c'est des gens qui...
Genre, tu penses à Valider, la série de
Sur le hip-hop.
Non, mais le problème, voilà, c'est que... Ou Le Monde de Demain, par exemple, était bien fait, parce que c'est des acteurs qu'on ne connaît pas trop. Donc ça amène quelque chose que là... c'est des gens qui sont un peu embourgeoisés, entre guillemets, et qui parlent de ce qu'ils ont connu à une époque. Et bah, pareil, la banlieue, elle a évolué. C'est le thème qui est... On l'évoque toujours de la même façon. Et donc, je pense pas, comme tu dis, que ça amène quelque chose au chemin public. Et voilà, bah, après, ouais, peut-être Lockwood & Co.
Ouais, moi aussi, je pense.
Parce que, bon, une non-voyante avec des... Bon, pilote Wolfpack, bon, on a vu Teen Wolf, ouais. C'est... Voilà, on sait que derrière... Même si j'aime bien les loups-garous, les bons films de loups-garous, mais là, je sais pas. On continue avec The Last of Us. 20 ans après la destruction de la civilisation moderne, Joël, un survivant endurci, est engagé pour faire sortir Ellie, une jeune fille de 14 ans, d'une zone de quarantaine oppressante. Ce qui n'est qu'au départ qu'un petit travail va se transformer rapidement en espèce de voyage brutal et époustouflant, alors que ce duo improbable va dépendre l'un pour l'autre pour survivre. Ensuite, The Rig. Une tempête tropicale frappe une plateforme pétrolière. L'ensemble des ouvriers se retrouvent complètement isolés au milieu de l'océan, sans aucun contact avec la terre ferme. Ils sont seuls, mais pas pour longtemps. Ils vont découvrir la présence d'une créature. Ensuite, Bones of Crow. À la suite d'une enfance passée dans le système des pensionnats autochtones canadiens, la matriarche Cree Aline Spear poursuit le combat générationnel de sa famille face à la famine, au racisme systématique et aux abus sexuels. Elle utilise son incroyable capacité à comprendre et à trahir les codes pour travailler dans une mission classifiée pendant la Seconde Guerre mondiale.
The Last of Us, assurément, en espérant qu'il sera à la hauteur du jeu, parce que j'ai
adoré
le jeu. Ah. Et surtout, j'espère qu'il saura retranscrire ce côté qu'on avait dans le jeu où tout est loin d'être noir et blanc, même chez les personnages qu'on suit, même chez les personnages auxquels on s'attache. Des fois, ils prennent des décisions et ils font des actes qui sont extrêmement répréhensibles. Mais ce sont quand même les personnages principaux. Et j'espère que ce côté-là sera bien retranscrit dans la série.
C'est vrai que quand c'est bien retranscrit, je pense à The Walking Dead, par exemple. On a des personnages qui sont bons, mais qui vont faire des belles saloperies à un moment ou à un autre. Ah, oui. Et c'est toujours bien de montrer que l'humain n'est pas... on n'est pas tout noir, tout blanc.
C'est souvent une question de contexte et ils le font.
Voilà, qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation ? C'est facile de juger dans son petit canapé regardant. Comme les gens, malheureusement, ils disent, en temps de guerre, je tirerai pas ou je recevrai. On sait jamais comment on va réagir avec la peur, la condition, et malheureusement. Et c'est bien, comme tu dis, de voir que des décisions, puis après, on peut regretter les décisions qu'on a prises. Voilà, c'est ça la vie aussi. David, pour toi ?
Bah, celui-là aussi, hein, comme tout geek. Et pourquoi pas la dernière ? C'est au Canada, le peuple autochtone.
Celle-là me roche bien aussi, parce que de voir un petit peu, surtout vu par les Canadiens, c'est un peu plus... c'est totalement différent que vu par les Américains. Parce que déjà, ils ont une approche
et surtout vu
avec les peuples autochtones.
Vu ce qu'ils ont découvert ces dernières années sur les peuples autochtones.
Ce qui leur a été fait, ça fait un petit peu un parallèle avec ce qui s'est passé en Australie avec les aborigènes, quoi.
Ouais, c'est un peu ça.
Il y a eu des trucs bien cachés. Et là, on est en train de s'apercevoir qu'il y a eu des belles saloperies de fêtes. Il y avait des gens qui étaient bien au courant. Mais bon, c'est bien aussi de remuer ça et de montrer, pas pour une question de haine, mais dire aux gens, voilà, ça a existé, il ne faut pas le cacher. C'était un autre contexte, une autre époque, mais ça a existé. Et il ne faut pas que ça existe à nouveau. Et voilà, pour moi, c'est ça l'important, c'est que l'histoire doit être enseignée de façon...
Et ne pas se répéter.
Pour justement qu'elle ne se répète pas. Et malheureusement, quand on voit ce qui se passe de nos jours, y a toujours des gens qui n'ont rien compris. Ensuite, on va terminer par les trois petites séries que j'ai choisies. Alors, Kaleidoscope, qui s'étend sur un quart de siècle, c'est Jigsaw est centré sur le plus grand casse jamais tenté, 70 milliards de dollars d'obligations qui ont disparu dans le centre de Manhattan pendant le fameux ouragan Sandy. Et la série se compose de 8 parties allant de 24 ans avant le hold-up et un an après. Donc, c'est un développement. Les sorcières de Mayfair, donc une jeune neurochirurgienne intuitive, découvre qu'elle est l'héritière d'une famille de sorcières. Alors qu'elle est confrontée à ses nouveaux pouvoirs, elle doit faire face à une sinistre présence qui hante sa famille depuis des générations. Et puis, Maniac par Junji Ito, c'est une anthologie macabre, des différentes petites histoires. Très originale, cette série va ravir les fans des films d'animés d'horreur. Maniac par Junji Ito se compose de 20 histoires issues des œuvres du même Junji Ito. Un univers fantastique et horrifique inspiré, bien sûr, des mangas japonais.
Je dirais Kaleidoscope et Maniac. J'ai découvert l'univers de Junji Ito assez récemment et j'ai pas découvert ça avec l'univers de Junji Ito, mais avec une vidéo parodique.
D'accord.
Et la vidéo, dans les commentaires, j'ai vu que les gens disaient que c'était extrêmement bien fait et que ça ressemblait vraiment à ce que faisait Junji Ito et j'étais vraiment fasciné tout le long. Donc ce sera une belle opportunité pour moi de voir ce qu'il fait un peu plus en détail. Et Kaleidoscope a l'air assez intéressant aussi. J'ai cru et je crois en avoir entendu parler en plus assez récemment.
Ah ouais, c'était un fait divers entre guillemets. Mais justement, ça me fait penser un petit peu, bon, on parlait de la Casa del Papel, mais là vraiment sur développer avant, après, ce que deviennent les personnages, c'est toujours intéressant de voir que, oui, un casse, des fois, ça se prépare des années
et
avant.
Le personnage principal, c'est celui qui jouait dans Breaking Bad, qui faisait...
Et l'évolution, de voir l'évolution des personnages, comme tu disais, c'est toi qui disais tout à l'heure, Yannick, on parlait pour Stranger Things, de voir sur une période, et si c'est tourné, justement, une série... Ça évite l'écueil de voir les ados grandir, changer physiquement, et là, si c'est tourné, on peut... par des systèmes pour les grimer, mais là, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes personnages qui ont des réactions d'ados alors qu'ils sont déjà adultes. Donc, pourquoi pas. C'est vrai qu'Aléidoscope pourrait être sympa. Et puis, les sorcières de Mayfair, on a eu tellement d'histoires de sorcières que... Voilà. Et puis, moi, j'aime bien les anthologies, les films anthologiques avec des petites histoires courtes. Donc, pourquoi pas découvrir totalement, puisque je ne connais pas Junji Ito. Et puis, de voir un petit peu. Je pense que, étant donné que c'est japonais, ça risque d'être violent. Parce qu'en général, ils ont une façon de voir l'horreur bien crue. Donc, pourquoi pas.
Moi, c'est plus...
Est-ce que vous avez, David, des petites réflexions sur les trois séries qu'on a nommées?
Non, pas spécialement, de plus ce qu'on a dit.
Ok.
Il y a des séries qui n'ont pas été nommées que vous attendez particulièrement?
C'est ce que j'allais dire, non. Après, il y a des suites, oui, que j'attends. Billy the Kid, par exemple, que j'ai commencé la première série. J'aime bien le côté historique. La façon dont c'est traité, c'est pas mal fait. Voilà, il y a plein d'autres séries que j'attends. Oui, Yellow Jacket, par exemple, je veux voir la deuxième saison pour voir ce que ça va donner, si ça évolue. Puisque j'étais au bout de la saison, j'étais un peu déçu. Et puis, je pense qu'il y a plein de séries qu'on va découvrir au fur et à mesure. Bon, cette année, et puis, alors malheureusement, il y a plein de séries qu'on nous annonce déjà qui n'auront pas une seconde saison.
Ouais, aussi.
Ça, c'est la spécialité de Netflix, entre autres. Là, par exemple, leur dernier gros succès,
1899.
N'aura pas de. Ils ont décidé qu'il n'y aura pas de suite, donc une saison. Alors, des fois, ça peut être bien, mais il y a des fois, on aurait bien aimé une fin. Je pense à Terra Nova, par exemple, il y a quelques saisons. C'était génial, c'était bien fait, bien torché. Il y avait déjà un peu les intrigues à venir qui étaient lancées à la fin du premier épisode, et là, on nous laisse, pof, au milieu de la rivière. Et je déteste ça parce que on n'a pas de raison, ça marche bien.
Ça fera peut-être comme la série que j'avais adorée à une époque qui s'appelait The Wayward Pines, qui avait mis 15 ans à avoir une saison 2.
Ah oui. Ouais. Bon, au moins, il y en a une.
Après, moi, je m'en méfie parce que des fois, on n'est plus dans le même moule.
Ouais. Moi, j'avais vu la une pas longtemps avant la 2. Donc, en fait, c'était passé crème, nickel.
Il y avait The Dark Crystal aussi en 2021.
Oui.
Excellent.
Le film était excellent déjà à l'époque. Moi, j'avais vu, c'était révolutionnaire.
Mais la série était... En fait, la série, pour moi, c'était notre société. Genre, c'était vraiment... Il y avait tellement de parallèles que tu pouvais tisser avec des choses qu'il y avait dans le vrai monde. Et j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré.
Bah oui, tu vois, on parlait d'Heroic Fantasy, entre autres. Dark Crystal, c'est très bien par rapport à ça. Et Willow n'a pas réussi à ça. Alors qu'il y a eu entre la série et le film, il s'est passé pas mal d'années. Mais la série, on était reparti. Que Willow, là, on a du mal à accrocher.
Oui, je vous sens chaud pour le coup de cœur.
Eh bien, on va finir par une série coup de cœur, comme d'habitude. Eh bien, j'ai mis Professeur, si ça a été une découverte, qui est en titre original les Voskensky.
Donc, à tes souhaits.
Une série russe de 2021. Alors, ça se passe dans le Saint-Pétersbourg de 1912. Un médecin légiste et son assistant maladroit vont aider la police à résoudre différents mystères, aidés d'une journaliste féministe. Évoluant entre la corruption des notables et nobles, le professeur utilise son sens de l'observation et des méthodes pas toujours classiques, on pourrait dire même pas catholiques, puisqu'il n'est même pas orthodoxe, on s'aperçoit dans le film, pour résoudre des enquêtes dans un monde préfigurant la révolution russe. Donc, j'ai découvert par hasard cette série sur YouTube en allant me balader, et vous pouvez la voir, les sous-titres en français. Donc c'est un avantage, parce que tout le monde ne parle pas le russe. Et voilà, si vous êtes fan des Sherlock Holmes, des Mystères de Murdoch, enfin ce genre de série, c'est intéressant, parce que aussi le côté de voir que la révolution russe n'est pas loin, que ça commence à gronder, que les notables s'en mettent plein les poches de plus en plus, on sent derrière que les ouvriers, les paysans n'attendent qu'une étincelle pour que ça pète. Et le professeur, d'ailleurs, et lui est un professeur, dont un notable, entre guillemets, mais lui, il est déjà plutôt du côté de la révolution, parce que lui-même sent que, par ses méthodes, c'est le gars qui va crocheter. Alors, on n'attend pas d'un professeur légiste qu'il aille crocheter. Et il y a son assistant, qui est aussi un médecin légiste, qu'il a pris sous sa coupe. Et il est là sans dire, « Oh non, vous n'allez pas faire ça. Bah non, ça ne se fait pas, vous êtes professeur. » Et l'autre, il fait, « T'inquiète pas, tu tournes le dos si tu veux pas. » Et plaque. Et puis aussi le fait de cette jeune femme féministe dans une société où tsariste, où les femmes étaient considérées juste comme des poules pondeuses. Et bien là, elle est très indépendante. Elle va essayer d'utiliser sa féminité, mais de manière à faire un petit peu faire ployer le professeur, qui lui est plutôt misogyne. Et donc c'est assez marrant de voir ces personnages un peu plus complexes, quoi, entre guillemets, puis résoudre des affaires qui sont un petit peu comme Sherlock. On part dans le fantastique, mais derrière il y a des raisons plausibles, et c'est bien fait. Donc le professeur, et je vous propose d'écouter cette série.
Ну что, Петрушка, что ты хочешь мне сказать?
Ваня,
а вот тебе! Сейчас я надаю тебе хороших тумаков! А ну-ка, иди!
Ванюша! Никита! Наденька! Идите скорее сюда, куда вы побежали, озорники! Что это?
Eh bien, fin de ce Sérivore spécial bilan 2022, sortie 2023. En espérant vous avoir fait découvrir de futures pépites du petit écran, nous vous souhaitons encore une bonne année avec l'équipe des Sérivores et vous donnons rendez-vous bientôt sur Radioactive pour une nouvelle émission.
À plus tard.
Bye bye.
Bye.
Maintenant, choisissez votre camp.
devenir un céréal lover
ou un céréal eaters.